that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN. Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good. 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'une femme cette fois-ci, 30 minutes où on va prendre le temps de s'arrêter et de rencontrer. Madame, mademoiselle, messieurs, elle a la réputation d'être une femme déterminée. On va essayer de savoir pourquoi. Madame, mademoiselle, messieurs, c'est Françoise Soliman, mon invité. Et Françoise Soliman, c'est Madame le Préfet. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à vous.
Déterminé, ça vous va, ça ?
Oh oui, c'est... je pense que ça me correspond bien.
Hein, quand on vous voit prendre la parole, c'est déterminé. Vous prenez le micro, vous y allez, vous... depuis toujours.
Oh, depuis toujours, je sais pas, mais je pense qu'au fond, il devait y avoir plein de petites cellules qui étaient comme ça, et puis la vie vous polie, vous change, et probablement que ce qui est au fond rejaillit et devient sans doute la caractéristique de votre caractère, oui, je pense.
Alors, Madame le Préfet, vous avez accepté de participer à une émission qui n'est pas facile, parce que le but du jeu, c'est pas Madame le Préfet qu'on va recevoir, c'est Françoise.
Eh ben, Françoise est prête.
Alors, elle nous vient d'où, Françoise ? Elle forge son histoire dans quel territoire, avec quelle famille, avec quels amis, avec quel réseau ?
Alors, je suis une fille de l'Ouest. Mon père était breton, ma mère poitevine. Donc, vous voyez, on est très...
Le drapeau breton, vous l'avez vu tout de suite à la radio.
Le Guanadou, je l'ai reconnu, oui, tout de suite. Et donc, oui...
Ah, c'est ça, c'est les bretons, le côté...
Oui, un peu. Hein? Et voilà, des parents plutôt issus de familles fonctionnaires. Mon grand-père était prof de fac. Mon autre grand-père était dans les finances publiques. J'ai un père qui était dans la préfectorale. Une mère qui, à l'époque, dans ces temps-là, ne travaillait pas. Donc, et moi, fille unique au milieu de tout ça, avec les ambitions sans doute paternelles qui disaient « ma fille sera préfet » et le pauvre n'a jamais vu ça. Et je suis devenue préfet, mais beaucoup plus tard et pas du tout, je pense, comme je l'aurais été si des choses avaient été faites beaucoup plus naturellement, c'est-à-dire que si j'avais fait l'ENA, si, enfin, voilà, on en reparlera, je pense, bien après.
Ça, c'était des choses possibles, l'ENA, ou c'était des choses que vous aviez envie de faire ?
Alors, j'ai toujours...
Gamine.
Non, gamine, j'ai toujours voulu faire Sciences Po, ça c'est clair.
Ah oui.
À 11 ans, je savais que je voulais faire Sciences Po. Après, l'ENA, c'était très, très loin. Après... Oui, quand on est à Sciences Po, on, quelque part, on se dit oui, c'est la voie royale, c'est normal. C'est... Et puis, des événements extérieurs ont fait que c'était pas forcément ma voie. Et probablement qu'à la relecture, un peu presque 40 ans plus tard, je dirais que j'ai eu raison de persévérer dans la voie que j'ai prise.
Alors cette date-là, on tourne autour du pot, c'est vraiment cette date-là qui est marquante. Vous y arrivez tout de suite à votre première date, j'arrive pas à aller avant. Vous m'énervez, Françoise, puisque j'ai décidé de vous appeler Françoise. Voilà. Vous m'énervez parce que cette date, elle est vraiment importante dans votre vie, c'est ça ?
Je pense que c'est la bascule de ma vie, oui, bien sûr. La bascule de ma vie parce que je devais représenter l'ENA. Hein. J'avais été collée en 87 à l'oral.
C'était le 22 mai 1988.
Voilà. Et donc, en attendant, je m'étais dit, j'en ai marre, ma prépa ENA, je ferai en travaillant à mi-temps. Et donc, j'ai travaillé pour un groupe politique au Sénat et c'était une année d'élection présidentielle. Donc, un peu comme vous, je rédigeais un journal de campagne pour un candidat. Et c'était passionnant. J'ai eu le virus, voilà. Ça s'appelle vraiment le virus de la politique qui, quelque part, devait exister un peu quand même. Et puis, le candidat que je soutenais a perdu. Et le président du groupe pour lequel je travaillais était ministre à l'époque et est revenu au groupe perdant, lui aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, il est rentré. Ça devait être début mai, je pense. Oui, ça devait être après les élections, donc le 8 ou le 10 mai. Et le 22 mai, il m'a convoqué, comme il a convoqué l'ensemble des gens qui travaillaient au groupe. Il ne me connaissait pas à l'époque.
Et vous connaissez pas?
Ah non, il me connaissait pas, puisque moi j'étais arrivée, il était ministre de l'Intérieur, et moi j'étais, j'étais pas du tout...
Dans l'équipe des campagnes et tout
non,
ça?
Non, j'étais dans l'équipe du candidat, mais comme, quelqu'un qui gratte, Et il me dit, qu'est-ce que vous comptez faire, Françoise? Lui aussi, il m'appelait Françoise. Et je lui dis, écoutez, monsieur le ministre, c'est tout tracé, hein, en septembre, on est en mai, je représente l'ENA. Et il me dit, à quoi ça sert, l'ENA? Qu'est-ce que vous allez faire avec l'ENA?
Là, je dis, ça vous donne savez... une idée du personnage, là, quand même.
Et donc, je lui dis, c'est une promesse, etc. Il me dit, écoutez, vous avez le week-end de Pentecôte. C'était Pentecôte. Hein. Vous avez le week-end de Pentecôte pour réfléchir. Et si vous persévérez, très bien. Mais si vous souhaitez vraiment vivre une vie intéressante, je vous propose d'être responsable du législatif, donc était le groupe législatif, avec 6 chargés de mission, au groupe RPR du Sénat. Et donc, tout un week-end, j'ai réfléchi, j'ai demandé conseil à mon père, qui m'a dit, si tu fais ça, je ne te parlerai plus jamais. Ça a tenu 6 mois. Enfin, il ne m'a pas parlé pendant 6 mois, quand même.
Elle est breton, quand même.
Breton, quand même. Et voilà, j'ai fait le bon choix.
Attendez, vous êtes quand même complètement cinglé, si je puis me permettre, quand même. Non, vous avez la possibilité. Mais si, quand même, parce que faire l'ENA, c'est faire l'ENA, quand même, c'est la garantie. Par rapport à un engagement politique qui est le vôtre, citoyen aussi, l'ENA, ça ouvre toutes les portes, quoi, voilà. Alors que travailler pour un groupe politique au Sénat, pardon pour la fonction, mais ça n'a pas la même perspective d'avenir, quand même.
Ah, c'est l'adrénaline.
Ah.
C'est l'adrénaline.
C'est ça qui vous guide, alors?
Ah oui.
Enfin, ça, qui vous dit, ou en tout cas, vous en avez besoin.
En tout cas, je pense que je suis une femme de passion. La routine m'enquiquine, et je suis toujours, un peu dans le... J'ai envie d'avancer, de bouger, vous l'avez dit, je suis une femme de terrain. Et dès cette époque, je pense que l'idée de me dire, parce que je serais peut-être, j'aurais pas eu une énorme, peut-être la deuxième fois d'ailleurs, peut-être même sûrement, je serais peut-être sortie comme administrateur civil aux anciens combattants, ça n'a rien de déshonorant, mais c'est pas exaltant. Donc là... Je pense que j'avais l'occasion de pas rater ma vie. Et pourquoi pas d'y revenir. Et j'y pensais même pas à l'époque. Et vous voyez que j'y suis revenu.
Et vous comprenez votre papa?
Ah, je comprends que je puisse affoler un père quand on a 25 ans et qu'on prend cette décision-là. Oui, je peux le comprendre, même si... il prenait pas énormément de risques, quand même.
Ouais, c'est ça, parce que c'était pour vous votre chemin.
Ah oui, c'était mon chemin. Et d'ailleurs, le plus bel hommage, et en tout cas, ce qui m'a complètement rassurée, c'est que mon père est mort 2 ans après, ce qui était, mon père est mort jeune. Et c'était encore à une époque où, dans l'avancement de mon parcours avec Charles Pasqua, je partais sur l'aventure de Maastricht. Et là, alors que c'est, il était à quelques mois de mourir, je suis allée le retrouver en Charente-Maritime et, j'écoute, le ministre me propose ça. Et il me dit, mais de toute façon, tu sais bien que je te fais confiance, t'as gagné, t'as choisi, ne me demande plus. Et il était très fier de moi, je pense.
Ça, c'était le passeport pour la vie, c'est quand vous avez fait votre choix.
Ça a été 7 ans et demi, en tout cas.
Peut-être non, votre pas passeport pour la vie.
Ah, mon passeport, mon passeport. Oui, bien sûr. Ah, je pense que ça m'a...
Ça vous a libéré que le papa vous parle comme ça?
Ah oui, je pense que ça m'a libéré. Et quelque part, je pense qu'il avait vu que... J'y reviendrai à ce corps préfectoral. Il avait, je pense que, avec cette fulgurance, quelquefois, quand on a des gens qui sont au seuil de leur vie, je pense qu'il avait cette fulgurance-là, Et ça m'a porté tout le temps.
Alors, le papa, on parle un peu de Charles Pasqua,
c'est
un personnage qui vous a...
Il m'a appris le boulot.
Ouais.
Je pense qu'il a été un formidable professeur, à la fois exigeant, paternel, motivant. Je pense, ma leçon de vie professionnelle, c'est Charles Pasqua. Et tous les jours, il y a un moment ou un autre où je pense à lui, où je me dis, c'est les fondamentaux, en tout cas.
Madame le préfet, quand...
C'est plus Françoise, là. Hein.
Non, justement, vous avez bien senti, je préparais le terrain, voilà. Madame le préfet, ça rigole pas avec la sécurité en Meurthe-et-Moselle depuis que vous êtes arrivé. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi? Expliquez-nous la place de la sécurité dans votre rôle, dans votre mission de préfet.
Ben, écoutez, je pense que sans sécurité, il n'y a pas de vie en liberté. Il n'y a pas de choix de vie. Dans des quartiers où on voit que les gens sont tenus, où il y a de l'économie souterraine, je pense que malheureusement, ces jeunes-là n'ont pas le choix d'en sortir parce que il y a cette pesanteur, il y a ce fric facile, il y a tous ces gens qui les entourent et qui leur montrent pas une image digne d'une société. Donc je pense que si on ne donne pas à ces jeunes, si on donne pas à ces gens qui sont à un moment de leur vie ou aussi ils font un choix, si on leur donne pas les conditions de le faire sereinement, donc sans trafic, sans problème de délinquance, etc., on leur enlève cette possibilité de vivre notre vie. Donc pour moi, il n'y a pas de vie économique, il n'y a pas de vie culturelle, il n'y a pas de vie intellectuelle sans sécurité.
Et Françoise, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu un autre temps? Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne, la société?
Je pense que ça fonctionnera toujours comme ça. Et je pense que c'est justement en baissant
les
bras...
C'est un fondamental de l'être humain, du vivre ensemble?
Bien sûr. Bien sûr. Enfin, moi, j'ai eu des postes où j'ai vraiment vu des quartiers qui pouvaient être en déshérence, des gens qui avaient la tête tournée par des idées qui étaient très loin de nos valeurs fondamentales. Et je pense que c'est pas être vieille con ou rétro. Ou,
je l'ai pas dit, hein, quand même.
Non, mais vous le pensiez. Et je pense que, pour moi, c'est l'un des combats qui va être. Et quand je dis la lutte contre le trafic des stupéfiants, c'est la mère des batailles, je le pense vraiment.
Quand je regarde un peu votre pedigree, je vois la sécurité, c'est un domaine qui vous a...
Mais pas que.
Et pas que, justement, j'allais y venir, justement, ne vous impatientez pas. Je disais, chargé de mission à la présidence du Sénat en 1999, sécurité, politique de la ville et affaires sociales, justement. J'allais vous tendre la perche, allez-y.
Non, mais tout à fait, vous voyez que c'était bien, voilà, les domaines de compétences, ils sont bien liés. Évidemment que travailler sur la sécurité, c'est aussi travailler, vous l'avez vu, on est dans un quartier où justement la politique de la ville, elle travaille formidablement. L'ANRU fait un boulot extraordinaire avec les collectivités locales.
Alors, l'ANRU, c'est la rénovation urbaine.
Hein, oui,
c'est
l'Agence nationale de rénovation urbaine. On transforme des quartiers et en transformant des quartiers, on les change aussi. On les change
on
les embellit, on les ouvre sur l'extérieur. On enlève ce ghetto qui probablement a présidé à l'architecture des années 60-70. C'est tout ce qu'on est en train de retravailler. Donc ça, c'est une vraie suite logique. Et je pense que dans la sécurité, il y a effectivement ce volet de vouloir donner ses chances d'arrêter les luttes. Et puis derrière, d'ouvrir par les associations. Moi, je trouve que le boulot des assos dans les quartiers, c'est formidable. Il y a des gens admirables. Et tous ces gens-là, il faut les encourager. Moi, j'essaie de le faire à mon modeste niveau.
On a parlé de la sécurité, on a parlé du vivre ensemble. Deux secondes sur la poésie. Ça, ou la philosophie, ou la réflexion, c'est quelque chose où vous avez encore le temps de goûter, de savourer, de profiter.
Alors, il n'y a pas un soir où je ne lis pas.
Oui, mais vous lisez quoi? Le Point, Libé?
Non, je peux lire des très bonnes biographies, des romans. Et puis, moi, mon évasion, ça passe aussi par les sorties culturelles. C'est beaucoup d'opéra, c'est aussi la course à la brocante, parce qu'on est des passionnés d'antiquité, d'aller dans les vide-greniers, trouver des petits miracles.
Ah,
voilà. Ah oui, on adore ça. Oui. Et voilà, c'est des moments de suspension de stress, et évidemment que si on ne réfléchit pas et si on ne s'aère pas l'esprit, on devient fou.
Si c'est tentant de fuir le présent, s'il te plaît, ouvre les yeux. Regarde devant toi.
prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. Composé d'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Courir droit devant, y croire sans faire semblant, dessiner l'après autrement. De la lumière sur ses sourires éteints, se retrouver plus fort, ne faire qu'un.
Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir nous les rend.
Où sont passées? Où sont passées?
Puis la mélancolie.
Grand Corps Malade et Kimber Rose, nos plus belles années sur RCN.
I Feel Good sur RCN. Christophe Chevardet.
Nos plus belles années. Pourquoi ce choix, Madame le Préfet?
Parce que d'abord, j'aime beaucoup la poésie. Vous parliez de poésie avant qu'on se quitte. De poésie. Et je trouve que Grand Corps Malade a cette suprême élégance de manier la poésie, mais une poésie abordable. Et puis, nos plus belles années, bah, c'est à la fois un mélange de regrets, mais d'espoir, de passé qui vous construit l'avenir. Donc, ça correspond bien à mes états d'âme. Voilà.
Alors, c'est dans votre histoire, c'est pourtant pas une des plus belles années, c'était mars 2012, c'est une date importante dans votre vie pour autant. Pourquoi ?
Oui, 19 mars 2012, c'est la Fermera. Et donc c'est le premier acte de terrorisme d'ampleur en France, parce que l'on dénommait à l'époque les loups solitaires. J'étais secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne. Et j'étais à l'époque, je remplaçais mon préfet qui était en congé.
Donc vous étiez en première ligne.
Donc j'étais en première ligne et un matin à 8h10, j'allais démarrer, j'étais en uniforme parce que le 19 mars, vous savez que voilà, c'est la célébration, la commémoration de l'Algérie. Et donc j'étais en uniforme et le DDSP m'appelle, le directeur départemental de la sécurité publique, en me disant, écoutez Françoise, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a des tirs. Dans une école israélite et je sens pas l'affaire et il faut que vous veniez, voilà. Et ça succédait à déjà 3 attentats précédents qui avaient été faits toujours par Mohamed Merah à Toulouse Francazal contre un soldat et contre 3 soldats à Montauban. Et là j'ai vu l'horreur et je pense que cette journée aussi m'a marqué à vie parce que pendant 4 jours j'ai vécu comme tous les autres à côté de moi, mais au contact de la barbarie, la plus affolante, la plus atroce. C'est des enfants qui avaient été tués à bout portant. Et on a vécu que dans l'efficacité et dans je fais tous les gestes derrière, les uns derrière les autres, et je perds toute humanité. Et ça, c'est quelque chose qui est... la gestion de crise, vous réfléchissez pas, vous avancez. Alors vous avancez parce que vous avez les familles à entourer, vous avez le président de la République à accueillir, vous avez le ministre de l'Intérieur qui arrive pour suivre l'enquête, vous avez tout ça, et vous réfléchissez pas. Vous, quelque part, je ne crois pas qu'il faille le prendre mal, mais vous vous déshumanisez parce que vous êtes dans un chemin droit, vous avancez. Et le jeudi soir, 4 jours après, quand ça s'est terminé, là, vous faites votre psychothérapie, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous parlez avec des gens, vous redevenez Françoise, pour le coup. Mais vous êtes marquée à jamais. Ça, c'est clair.
Ça veut dire quoi, marquée à jamais? Quelle trace ça laisse en vous dans l'engagement?
Ça justifie, je pense, toute... le travail que nous faisons sur la lutte contre la radicalisation. Encore une fois, pour promouvoir les valeurs de la République, pour travailler à ce que des jeunes ne tombent pas dans ces panneaux. C'est le rôle des associations. Je pense que c'est probablement ça qui fait que plus que jamais, je pense que notre premier ennemi, c'est ça. C'est cet obscurantisme. Quand on en arrive à tuer des enfants en les regardant droit dans les yeux, je pense qu'on n'est plus des hommes.
Alors face à l'obscurantisme, face à cette cruauté indicible, faites-nous aimer la liberté, l'égalité, la fraternité. Ça évoque quoi pour vous?
C'est évidemment tout ce qui est notre socle et tout ce qui doit...
La liberté, allez-y.
Ah, la liberté, c'est être à la fois respectueux des autres, parce qu'il faut être respectueux des croyances des autres, mais c'est en même temps ne pas laisser toutes ces croyances se développer n'importe comment. C'est la liberté d'exercer, mais à partir du moment où on n'empêche pas les gens de vivre, où on n'empêche pas les gens de penser autrement. Donc la liberté, c'est ça. La liberté, c'est magnifique, mais c'est à manier avec précaution.
L'égalité?
L'égalité, c'est pourquoi on travaille dans les quartiers, l'égalité. Vous allez dire, j'en reviens toujours à ma lutte contre les stupes, contre la délinquance, mais
non,
l'égalité, c'est de pouvoir imaginer que...
Justement, illustrez-le.
Un jeune de la rue de la Pompe ait les mêmes...
ça, c'est le 16e arrondissement.
Voilà, oui. Et n'est pas plus de liberté et d'égalité, enfin, de démonstration de. Il peut arriver dans la vie que quelqu'un qui habite en ce moment en Essonne. Et vous voyez exactement à quoi je fais allusion. Donc, l'égalité, c'est ça. C'est pouvoir dire, moi, je me donne les chances de ma vie et je démarre mal parce que je suis pas dans le meilleur quartier, mais j'ai la possibilité de faire ce que je veux faire. Et j'ai la possibilité de penser ce que je pense et d'avoir la sexualité que je veux avoir. Et voilà, je pense que c'est ça.
Allez, la fraternité.
La fraternité, c'est évidemment, je pense, ne pas tomber dans le côté cliché, on est tous beaux, intelligents, frères, égaux, etc. Mais c'est pouvoir, c'est le vivre ensemble, la fraternité, c'est ça.
Bon.
C'est pouvoir rencontrer des gens, pouvoir échanger avec eux librement, prendre un verre, c'est ça.
Vous êtes rigolote, parce que chacune des valeurs, elle s'associe à une exigence de vie. Que ce soit la liberté, l'égalité, la fraternité.
Rien n'est donné.
C'était votre... je suis un peu perturbé, vos 3 dates importantes. Allez, la 3e date importante, elle est toute récente.
Oui.
Elle est pleine... Alors, je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas que vous alliez la donner. Elle était effectivement pleine d'émotions. C'est la remise d'un
avril. Ouais, le 6 avril, donc samedi dernier, c'était la remise de l'ONM, de l'Office... Enfin, de Chevalier de... de l'Ordre national du mérite, à Serge de Carly, qui est maire de Mont-Saint-Martin, et qui lui-même est le pur produit de l'école républicaine, avec un engagement politique fort, avec cette structure des descendants d'Italiens qui ont fui le fascisme et qui sont venus s'installer en Lorraine, et qui, lui, a été blessé dans sa chair, vraiment, avec les deux épisodes de violence urbaine qu'il a connus, comme tout le monde, malheureusement, j'ai envie de dire, fin juin, début juillet, et puis, une nouvelle fois, le 13 juillet, avec son école, l'une de ses écoles qui a brûlé. Et quand j'ai été nommée en Meurthe-et-Moselle, c'était le 13 juillet. Mmh. Et le soir même, après un passage à Dreux où j'avais été avec les forces de sécurité sur le terrain, voir comment ça se passait, j'ai allumé BFM, il devait être 2h du matin, et j'ai vu Serge de Carly en train de mettre un peu en cause l'action de l'État. En disant, oui, j'étais un peu abandonnée, je me suis sentie un peu seule. Et je me suis dit, je prends mon poste le 21 août, le 22 août, je serai chez lui. Et le 22 août, j'ai été chez lui. Et on a bien bossé ensemble, et on a aidé à reconstruire. L'État s'est beaucoup engagé. On a fait des comités ensemble de financement des reconstructions. On a aussi travailler contre les luttes contre les stupes, parce qu'il y avait aussi beaucoup de points de deal avec la frontière luxembourgeoise. Il y avait eu beaucoup d'incidents qui s'étaient produits. On a mis beaucoup de policiers aussi sur le terrain. On a fait travailler les associations avec nous. Donc voilà, et à la fin, il m'a demandé de lui remettre son ONM, incroyable, d'être sa marraine.
Incroyable.
Donc la marraine était très fière de son filleul.
Vous aimez travailler, hein?
Ah oui, mais pas que, hein. Je suis une vraie paresseuse, en fait.
Oh, ah ouais?
Sans doute.
Là, vous nous avez donné trois dates importantes dans votre vie. Elles étaient sacrément importantes. Il y en a des plus marquantes que vous voulez garder pour vous?
Oui.
Ouais. Et elles constituent, sans nous dire ce que c'est, elles constituent quoi? Elles représentent quoi?
Ah ben, c'est mon armature. D'abord, c'est mon armature personnelle. C'est à la fois, des choses que je veux pas révéler, parce que voilà, ouais, c'est ma vie privée. Mais c'est aussi, ce passage de parents qui sont partis, de vie qui a continué. C'est vrai que on est fait de ce que les autres nous font. Et je pense que moi, une série de femmes, c'est très drôle, mais j'avais une arrière-grand-mère, une grand-mère et une mère qui étaient des très fortes femmes, très fort caractère, chacune dans un genre différent. Et je pense que de cette lignée-là, ma mère vous aurait dit t'es pas la moins bien, quoi. Mais c'était pas dans un sens très positif. Enfin, c'était t'as du caractère aussi, parce que je disais non mais toi t'en as trois fois plus que moi. Et c'était pas gagné. Et en revanche, je
non, mais
pense...
si vous vous auto-flagellez maintenant, là, non, mais là, je comprends non. plus, là. C'est quoi le truc, là?
Non, mais c'est
Françoise,
vrai.
Françoise, revenez à vos autorités de préfet.
Non,
allez.
Non, mais très sérieusement, oui, je pense qu'on est, on n'est pas des objets volants comme ça, non identifiés. On a des racines. Et puis, il y a ceux qui vivent à nos côtés qui nous rendent, moi qui me rendent beaucoup plus forte, qui me rendent heureuse et qui me donnent ces bulles de douceur qui me permettent de repartir tous les matins, bien sûr.
Avec tout le respect que j'ai pour votre profession, merci Madame la Préfète.
Merci à vous.